Bon, bonsoir à tous, je vous remercie d'être là ce soir malgré la neige. C'est vraiment très très gentil de votre part, je me réjouis de vous revoir. Monsieur Seigne a accepté de donner une conférence ce soir, je m'inquiétais aussi de savoir s'il arrivait, allait bien arriver chez nous. Je vous remercie beaucoup, surtout hier soir vous étiez en Jordanie, donc de la Jordanie à Poitiers. Donc merci beaucoup à vous, monsieur, d'être avec nous ce soir. Je vais laisser la parole à Jean Yernard qui va donc présenter notre conférencier. Cette conférence est organisée dans le cadre de notre partenariat avec le laboratoire Hermann. Donc je remercie aussi les étudiants d'être là et j'espère les revoir à la prochaine conférence. Donc le thème de votre conférence est « De l'eau au moulin ou les débuts de la mécanisation du travail à l'époque romaine ». Donc je vous remercie aussi parce que quand j'ai lancé un appel justement sur les thématiques concernant l'histoire des techniques de l'Antiquité, vous avez répondu tout de suite à cet appel et vraiment c'est très gentil de votre part. Je ne sais pas si vous connaissez l'espace Mendès France, donc c'est l'occasion de venir chez nous parce que tout le monde est venu chez nous. Voilà, merci beaucoup monsieur. Je passe la parole à Jean qui est professeur à l'Université de Poitiers. Jean Yernard, tu prends le micro.
Je représente Yves Lafond. Je suis venu aussi pour écouter Jacques Seigne, mais Yves Lafond, le directeur de l'équipe ERMA, ne peut pas venir ce soir, donc il m'a demandé de le représenter. C'est un plaisir pour moi de vous présenter Jacques Seigne. À vrai dire, j'ai besoin du papier parce que je connais Jacques Seigne depuis finalement assez peu d'années. Nous avons travaillé ensemble sur des monuments à inscription, un monument en particulier, et puis aussi Jacques Seigne travaille sur le lapidaire des fouilles des Cordeliers. La publication est en cours, est en gestation. Je sais pas à quel mois on en est arrivé. 8 mois, je sais pas. Alors, Jacques Seigne est un profil très particulier, c'est un homme très précieux, c'est un architecte archéologue. Je peux dire ça ? Hein ? Je vois CSN architecte à l'école française d'Athènes de 1974-1975. Ah bah, c'est un Landais, hein. Je me disais bien qu'il a ce physique, je connais. Donc architecte à l'Institut français d'archéologie du Proche-Orient à partir de 77, de 77 à 96, l'IFAPO, ce qu'on appelle l'IFAPO. Ça s'appelle plus l'IFAPO. C'est mort. On fait des économies. Il a été à Beyrouth, il a été en poste à Amman, en Jordanie. La Jordanie, c'est beaucoup plus vert que je le croyais. Surtout en ce moment. Responsable du chantier de fouilles et de restauration du sanctuaire de Zeus à Djerash, en Jordanie. Vous connaissez peut-être, vous avez au moins vu des photos de ce site extraordinaire. Directeur de mission archéologique française de fouilles et de restauration du sanctuaire de Zeus, toujours. Hein, nous sommes en 86 à 97. Responsable administratif du centre IFAPO de Jordanie, 89 à 95. Directeur de recherche au CNRS, chargé de cours aux universités de Tours et de Poitiers. Et qu'est-ce que je peux ajouter ? Directeur de la mission archéologique française de Djerash depuis juin 2008. Il appartient au laboratoire archéologie et territoire de l'université François Rabelais à Tours. Et c'est tout ce que je vais dire. Et sa thèse de doctorat a porté en histoire sur Djerasa de la Gerasa, de la Décapole et le sanctuaire de Zeus Olympien. Et en même temps, en 96, auparavant, diplôme d'architecte, etc. C'est un bachelier mathématiques et techniques. Alors, ce qui nous différencie totalement. Voilà. Écoute, je te cède la parole. Je suis très heureux de le rencontrer de nouveau ce soir.
Merci beaucoup. C'est toujours très gênant d'être présenté. Enfin, ceci dit, pardon. Quand on est présenté par des amis... D'accord. Quand on est présenté par des amis à Poitiers, c'est toujours un vrai plaisir. Mais Jean était vraiment trop aimable. Il y a juste un petit changement. C'est-à-dire que quand je vous avais envoyé ce CV, il n'était pas du tout question que je reparte en Orient. Il se trouve que je ne fais plus partie du laboratoire archéologie et territoire de Tours depuis quelques mois et que j'ai rejoint l'Orient à nouveau, puisque je suis à nouveau en poste en Jordanie. Non, c'est avec plaisir. Donc je vous dirais aussi merci d'être venu parce que je ne m'attendais pas du tout à trouver de la neige et surtout même s'il est en petite quantité elle est malheureusement je m'en suis aperçu assez glissante par endroits donc attention à vous à la sortie Et je vais vous parler d'une zone où la neige aussi existe. Hein. Il ne faut pas vous inquiéter. On avait de la neige il y a 15 jours déjà à Amman, mais pas du tout de la même nature. Et il fait déjà 17-18 degrés et de la verdure un peu partout. La photo que vous avez là n'est pas très verte. Vous verriez ça aujourd'hui, c'est vert et jaune, parce que c'est plein de petites fleurs. C'est absolument magnifique. Donc je vais vous parler de quelque chose qui n'intéresse que très peu au départ, j'allais dire les archéologues français. Justement, c'est l'histoire des techniques. Et c'est pour ça que je vais répondre si rapidement et si facilement et avec plaisir à votre demande. Tout simplement parce qu'en tant qu'archéologue français, je ne m'étais pas du tout intéressé non plus à un problème qui était le sillage des pierres dans l'Antiquité. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui, a priori, saute aux yeux. D'autant plus que le sillage des pierres, pour moi, c'était quelque chose de simplement manuel. Quelque chose de très pénible, on le sait. Et je ne pensais pas du tout qu'il ait pu y avoir autre chose, autre moyen, d'autres moyens. D'autant que, comme vous le savez, si dans l'Antiquité, on a essayé de développer un certain nombre de choses, l'Antiquité est surtout connue pour avoir justement eu peur, d'après certains auteurs, de développer des techniques de mécanisation du travail. Et qu'on a continué simplement à utiliser l'énergie musculaire au détriment d'autres sources d'énergie pour faire ce que l'on a besoin de faire, c'est-à-dire de la farine, etc. Or, on savait déjà, ne serait-ce que parce que vous avez de la marine, qu'on savait utiliser l'énergie éolienne, mais on savait aussi pouvoir utiliser une autre source d'énergie qui est très simple, c'est l'énergie hydraulique. Alors, ne serait-ce que ça, je veux dire, le moulin hydraulique simple, c'est-à-dire un moulin qui est entraîné par un filet d'eau, d'une manière ou d'une autre, soit par l'intermédiaire d'une turbine avec une prise directe sur les meules, soit par des roues qui sont au fil de l'eau, soit, on va en voir une tout à l'heure, une roue qui est alimentée par en dessus, comme on dit, avec des roues à auger. Ces moulins étaient considérés comme peu connus dans l'Antiquité. Et puis on a commencé à en trouver, je vous ai envoyé à côté une installation qui est bien sûr extrêmement bien connue, c'est Barbegal, hein, c'est quasiment une petite usine déjà de meunerie. Et puis on en a trouvé à droite, à gauche, etc. Et je crois que maintenant, on trouve des moulins hydrauliques absolument partout, en Gaule et ailleurs. Et ce, dès le début de notre ère. Donc, les anciens savaient, et ne serait-ce que pour une chose simple, voulaient utiliser une autre source d'énergie que l'énergie musculaire. Contrairement à ce qui a été affirmé pendant trop longtemps, on ne s'est pas contenté de l'esclavage, on ne s'est pas contenté de la force animale ou humaine. Ceci dit, la mécanique est autre chose. Comme vous le voyez ici, dans ces moulins, il y a simplement une utilisation, j'allais dire, directe. Un mouvement circulaire reste un mouvement circulaire. Et vous savez que ce qui fait la grosse différence, justement, pour la mécanique, à partir du moment où on va dire qu'on fait de la mécanique, c'est qu'on va être capable de transformer les mouvements d'un type X en mouvement de type Y. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Ça a l'air simple pour nous aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte tellement c'est simple parce qu'on pratique ça tous les jours. Mais la mise au point du système n'était pas du tout évidente. Et au point qu'on supposait que justement les anciens n'avaient pas su franchir ce pas et que ce n'était qu'au XIIIe, XIVe siècle en Europe et en Chine que la maîtrise des transformations des mouvements aurait pu être donc réalisée. Et à partir de ce moment-là, que la mécanisation du travail est en route et que, évidemment, le boom, l'essor hein, du travail va se faire. C'est-à-dire que c'est la fin de l'époque médiévale, c'est ce qui va annoncer les grandes révolutions, puis les révolutions industrielles, etc. Alors, je vais vous raconter une histoire, parce que moi, j'aime bien les histoires. Et puis, ce sont des histoires qui sont, à mon avis, doublement intéressantes parce que, comme vous le savez aussi, les archéologues, il y a ici des personnes du département du service des Antiquités. Excusez-moi, en Jordanie, c'est le département des Antiquités. Donc, du service des Antiquités. Et toute fouille, toute recherche est soumise à, bien sûr, des dossiers préparatoires. Donc, vous avez une problématique. Et en fonction de cette problématique, vous définissez des objectifs. Vous allez définir, etc., un site propice, etc. Donc, la recherche est toujours orientée. C'est-à-dire que vous avez déjà une idée préconçue. C'est-à-dire que vous cherchez quelque chose. Et oui, mais le problème, c'est que quelquefois, la recherche vous réserve des surprises. Il y a les à-côté, ce qui n'est pas prévu. C'est ce qu'on appelle les découvertes fortuites. Et quelquefois, ces découvertes fortuites sont tout à fait extraordinaires. Mais je vous en présenter une, puisque cette découverte que j'ai l'honneur de vous présenter et qui m'est attribuée aujourd'hui n'est pas la mienne. En 1927, quand les équipes anglo-saxonnes commencent à fouiller le grand site de Djerash, donc nous sommes en Jordanie, à l'est du Jourdain, vous avez une ville qui est somme toute moyenne pour la région, à peu près 1,5 km de diamètre, hein, puisque le rempart est quasi circulaire, à cheval sur une petite vallée. Vous voyez tout de suite un plan orthogonal tout à fait hippodamien, entre guillemets. Il ne l'est pas du tout, bien sûr. Une fois qu'on a fait la fouille, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout une origine hellénistique, mais c'est du 2e siècle de notre ère, et encore, peut-être même plus tardif pour certaines parties. Il n'empêche que donc, c'est une ville d'époque romaine, ayant tous les éléments et les parures monumentales d'une ville romaine. Vous avez ici un hippodrome, deux théâtres, il y en a un troisième, des grands sanctuaires, nymphées, etc. Eh bien, il se trouve que dans cette zone, les archéologues américains... Ah, pardon, c'est allé un peu trop vite. Les archéologues américains avaient préparé la construction d'un musée de site avant l'arrivée de la mission qui allait fouiller tout le site en 1928-1933. Et une des salles souterraines du sanctuaire d'Artémis présentait une drôle d'installation hydraulique. Point à la ligne, vous voyez dans quel état elle était. Tellement peu intéressante qu'elle n'est même pas mentionnée dans les carnets de fouilles. Et bien entendu, pas publiée. En 1980, l'équipe italienne qui travaille sur le sanctuaire d'Artémis refait un plan général du site. Et vous apercevez ici, bien sûr, les structures antiques. Et note qu'à proximité de cette petite salle où les Américains ont farfouillé, vous aviez une grande citerne, puis une petite citerne, donc d'autres installations hydrauliques. Aucune connexion ne se fait entre tout cela. À l'intérieur de cette salle, pourtant, il y a des choses amusantes. Vous apercevez ici un tambour de colonne, vous en apercevez un deuxième, et vous apercevez que ce tambour de colonne présente de très amusantes traces de sillage, point à la ligne. Et ce sont ces traces de sillage qui m'ont attiré quand, en 1982, cherchant des blocs pour le sanctuaire de Zeus, à côté de l'ancien musée, j'ai aperçu ces deux fameux tambours de colonne. Bon, je trouvais que c'était des blocs rigolos, comme on dit. Et ces blocs anormaux, bon, je les ai dessinés. Mais j'ai bien vu que c'était dans une salle dans laquelle il y avait d'autres choses, mais tellement mal présentées, mal construites, disons-le tout de suite, d'époque tardive. Pour quelqu'un qui travaille sur du romain, bien sûr, le byzantin, c'est du tardif. Et je me suis intéressé qu'au bloc. Je suis passé devant pendant quasiment 15 ans. Il n'y a pas eu de problème. L'histoire se serait arrêtée là s'il n'y avait pas eu une étudiante, Mlle Berthaudière, qui un jour, en venant d'une campagne de fouilles à Villers-Évreux, est venue me trouver avec une drôle de photo en me disant... On a fouillé un machin, c'est curieux, ça ressemble à un atelier de taille de la pierre, mais on a des traces de sillage. Alors, monsieur, comment ça se passe dans l'Antiquité, on voudrait faire, etc. Alors, on sait quand vous avez un étudiant qui vous pose une question idiote, parce que, je suis désolé, mais les étudiants ne posent que des questions idiotes, n'est-ce pas, cher confrère? Eh bien, vous essayez de répondre du mieux que vous pouvez, surtout quand c'est une question qui n'est pas vraiment dans votre domaine. Donc, on essaie de trouver rapidement les quelques sources bibliographiques à dire, bon, vous allez voir votre petit Bessac, regardez, etc. Et évidemment, le soir même, on rentre chez soi et on vérifie qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Et en vérifiant tout cela, on s'aperçoit, bien entendu, que... Diderot nous donne toute une série d'informations, bien sûr, sur le sillage des pierres. Vous voyez bien que nous sommes pourtant à une époque très récente. Hein. Ça se fait à la main, vous voyez ici, avec des scies sans dents, bien sûr, puisqu'il s'agit de pierres dures. Que c'est un travail donc très long, très pénible. Vous avez un abrasif, hein, c'est-à-dire que vous avez donc du sable entraîné avec de l'eau, entraîné par une lame. Et puis, en lisant, bien sûr, pour vérifier tout cela, vous tombez sur des articles essentiellement anglo-saxons. La France n'est pas vraiment en pointe dans ces domaines techniques. Donc, bravo de relancer cet aspect des recherches. Et on tombe, bien sûr, sur les quelques reconstitutions, les quelques articles présentant les méthodes pour débiter par sillage des plaques, parfois très grandes. Vous avez ici un débitage en carrière hein, de grandes plaques de pierre avec des scies très complexes. Vous voyez que la taille de la scie. Mais vous voyez qu'il y a un bâti, que tout cela est suspendu. Et vous voyez très bien que les petits schémas en dessous vous montrent bien que ces scies étant suspendues en mouvement pendulaire vont entraîner toute une série de traces bizarres, etc., comme celles que l'on voit sur certaines carrières. Ici, vous avez à Tirin, donc les restes hein, d'un front de taille après le travail. Et très curieusement, les traces qu'il y avait sur le chantier donc, de Vieil-Évreux n'étaient pas du tout de ce type. On avait des traces absolument parallèles, parfaitement rectilignes en fond de travail. Et en plus de ça, elles étaient regroupées par trois. Et puis on continue à lire. Du coup, parce que, si vous voulez, ça intéresse un petit peu. Et on tombe sur un poème célèbre, hein, qui est connu de tout le monde, hein, qui a été explicité, traduit, très discuté par justement les anglo-saxons, spécialistes des techniques antiques. C'est le fameux poème d'Ozone qui nous parle de ces fameuses scies qui font énormément de bruit sur les bords d'une rivière allemande. Et le texte laisse supposer que ces scies sont bien entraînées par des moulins. Donc on aurait là la preuve que dans l'Antiquité, on utilisait l'énergie hydraulique pour scier des pierres. Il est évident que, bien entendu, à partir de ce texte, nos collègues anglo-saxons ont proposé des tas de reconstitutions possibles de ce qu'aurait pu être une scie à pierre dans l'Antiquité. Vous en avez ici deux schémas, un avec le fil à couper le beurre. Je vous laisse imaginer la complexité et bon, la partie totalement irréalisable, parce qu'il faut que vous déplaciez le bloc de pierre sous un fil, etc. C'est impossible à réaliser pour l'Antiquité techniquement. D'autres, etc. Donc les discussions étaient arrivées au point tel que non, impossible. Donc les auteurs étaient d'accord, impossible. Les anciens ne savaient pas. Ils ne savaient pas transformer un mouvement circulaire donné par le moulin en un mouvement alternatif longitudinal nécessaire à la manœuvre des scies. C'est un truc qui a l'air tout bête, tout simple, mais ça veut dire qu'ils ne maîtrisaient pas la technique de la bielle manivelle ou de la cam, qui étaient les seuls moyens que l'on avait pour transformer un mouvement de type X en mouvement de type Y. Et donc le poème d'Ozone était considéré comme étant une forme poétique. Voilà, c'est tout. Et c'est là, alors évidemment, que le déclic se fait. Vous avez votre petit ordinateur de bord, quand j'ai dessiné les blocs avec les fameuses traces dans la salle de Djerash, il avait aussi enregistré que derrière, dans les parois, il y avait des choses rigolotes, comme une descente d'eau avec des enduits, etc. Et bien entendu, on dit, mais c'est pas possible. Est-ce que par hasard, on n'aurait pas là, avec ces deux blocs en cours de sillage, dans cet espace confiné, une installation hydraulique et qui pourrait être un moulin qui aurait pu être utilisé pour scier des pierres? Alors évidemment, je vous laisse supposer que pendant les quelques mois qui m'ont séparé du voyage suivant, j'ai quand même un petit peu gambergé en me disant c'est pas possible, d'autant plus que si vous regardez dans les... encore une fois dans Diderot, la maîtrise, là aussi, du sillage de la pierre de façon mécanique n'apparaît que très, très tardivement, 16e, 17e siècle, au plus tôt pour la pierre, un peu plus tôt pour le bois, mais pour la pierre très tardivement, avec ici l'utilisation du moulin à vent. Bon. Et évidemment, première chose à faire une fois retourné à Djerash, ça a été de retourner sur la zone que vous avez aperçue tout à l'heure, et grâce aux autorités jordaniennes qui nous aident de façon remarquable dans tous les travaux que l'on mené depuis des années à Djerash, ça a été de nettoyer, de dégager tout l'ensemble. Et bien entendu, on a eu, si je puis dire, la chance extraordinaire de trouver, vous aviez vu sur les plans italiens, au-dessus, les réservoirs, etc., mais vous avez ici une magnifique chute d'eau et un canal d'évacuation qui est ici, et avec une chose qui va se révéler fondamentale, c'est-à-dire les deux murs du coursier avec les supports de l'arbre de la roue. Et vous apercevez ici, bien entendu, un des fameux blocs en cours de sillage abandonné dans la salle. Vous le voyez ici à nouveau, vous avez ici les murs du coursier, le canal d'évacuation, et vous avez ici les deux tambours de colonne qui étaient en cours de sillage. Vous voyez que c'est dans un espace très limité, et qu'il y a de fortes chances que les deux tambours en cours de sillage ont probablement quelque chose à voir avec l'installation qui est là. Mais ce n'aurait pas été suffisant, pourquoi ? Mais parce qu'un moulin, il peut servir aussi à faire du grain. On n'a pas la preuve directe à ce moment-là que c'est un moulin à scier les pierres. Alors le premier indice est venu a posteriori, c'est-à-dire que c'est après l'étude, c'est-à-dire ça date de l'année dernière simplement. J'ai un de mes étudiants qui a pu aller donc aux États-Unis, à la Yale, et en consultant les archives, il a retrouvé une photo. datant des fouilles américaines, et on voit que les deux tambours de colonne n'étaient pas contre les parois, mais ils ont été trouvés au milieu de la pièce, exactement, on va le voir, aux emplacements prévus que l'on avait restitués sans le connaître, mais on avait dit que les blocs ont simplement dû être poussés sur les côtés après la fouille. Et là, on a la preuve qu'au moment de la fouille, eh ben, ils étaient effectivement à l'endroit où on les attendait. L'ensemble comprend quoi ? Ben, nous avons deux aqueducs qui alimentent une très grosse citerne. Cette citerne, évidemment, était destinée à alimenter toutes les fontaines de la ville. Vous avez simplement ici un trop-plein. Et je dis bien, c'est un trop-plein qui vient remplir un bassin réservoir à partir duquel vous avez la chute d'eau de 4 mètres et le canal d'évacuation. Donc on voit très bien que toute l'installation hydraulique ici ne fonctionne que lorsque l'on a suffisamment d'eau pour assurer déjà les besoins, pour assurer la fourniture en eau de la ville, et c'est le trop-plein qui permet de faire fonctionner l'installation. On a même des photos, c'est toujours Thomas Lepan qui a retrouvé ces photos, où l'aqueduc était parfaitement visible donc, dans 1930. Il est complètement détruit aujourd'hui, à part un petit tronçon qu'on a pu retrouver. Une coupe vous montre le dispositif. Vous avez le sol du bassin réservoir ici, les 4 mètres de chute, le canal de fuite, et évidemment ici, les deux murs du coursier. Et ces deux murs du coursier sont extraordinaires parce qu'ils sont en pierre. Et ils ont conservé tous leurs éléments, et en particulier les deux paliers qui portaient l'arbre, les deux paliers de rotation qui supportaient l'arbre de la roue. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que déjà là, on a la preuve qu'il ne s'agit pas d'un moulin de meunerie. Parce qu'un moulin de meunerie, vous avez automatiquement un dispositif asymétrique, puisque vous avez un système de renvoi. Pour une roue à arbre horizontal. Vous avez un palier qui se trouve bien effectivement immédiatement à côté de la roue, mais le deuxième est reporté beaucoup plus loin, à plus d'un mètre cinquante, parfois à deux mètres, parce que vous devez avoir un dispositif mécanique qui permette de renvoyer le mouvement vers les meules. Et donc le palier ne peut pas se situer immédiatement à côté de la roue, mais, je vous dis, 1,50 m, 2 m ou 3 m. Donc déjà, on avait un indice très important, c'est-à-dire que les paliers, on avait une roue avec un arbre court, ce qui a exclu complètement le fait d'avoir un moulin à grains, d'autant plus qu'on n'avait aucune meule, rien qui indique la présence d'un moulin à grains. Mais on a une chance beaucoup plus extraordinaire. Beaucoup plus extraordinaire, c'est que sur les parois extérieures des blocs qui supportaient les paliers de rotation, vous avez des traces d'usure, de frottement très importantes, qui vous montrent que immédiatement à l'extérieur, vous aviez deux choses, on a dit deux plaques, deux platines, deux pièces importantes qui font au moins 90 cm de diamètre avec des parties métalliques et qui ont frotté complètement sur la pierre au point de l'user de façon considérable. Comment expliquer cela ? Uniquement parce que vous avez en bout d'arbre, de part et d'autre du coursier, des plateaux. Mais à quoi faire ? À quoi peuvent bien servir des plateaux immédiatement en bout d'arbre ? La raison, je crois qu'elle est là, tout simplement. C'est que vous avez bien entendu ces deux blocs qui ont été trouvés dans la salle avec des traces de sillage multiples. Et la deuxième chance que nous avons, bien sûr, c'est que ces blocs sont conservés et ils sont conservés avec des traces tout à fait extraordinaires. Parce que, comme vous le constatez, vous avez 4 traces d'amorce de sillage, l'emplacement prévu pour 4 autres, et à nouveau 4 traces de sillage amorcées. Et toutes celles qui ont été réalisées s'arrêtent au même niveau. Même chose pour l'autre bloc. Vous avez ici, oui, ça s'arrête au même niveau, ça s'arrête au même niveau. On est obligé de conclure quoi à partir de cela ? C'est-à-dire qu'on est obligé de conclure que ces sillages ici, et d'autant plus en particulier ici, dans la partie qui parfaitement arrondis, n'ont pu être réalisés que par une scie multilame, à 4 lames, et non pas avec une seule lame. On retombe sur le problème qui avait, si vous voulez, enclenché un petit peu le tout, c'était à Vieil-Évreux, parce qu'on avait des groupes de 2 à 3 lames aussi, qui étaient visibles sur le sol, mais qui là-bas étaient faites vraisemblablement à la main. C'est-à-dire que
on s'aperçoit que dans l'Antiquité, même si c'était à la main, et à plus forte raison quand ça deviendra mécanique, on va essayer de rentabiliser au maximum le travail, qui est déjà pénible, en montant plusieurs lames sur le même bâti de scie pour débiter plusieurs plaques de pierre en même temps. Alors ce sont des tambours de colonnes qui proviennent du temple qui est juste au-dessus, et ça vous explique pourquoi on a utilisé des tambours de colonnes pour les faire scier. C'est-à-dire que c'est de la récupération, ni plus ni moins. Ça évitait d'ouvrir une carrière, d'aller chercher un bloc, de le transporter, etc. Là, le temple au-dessus n'est plus en service. On est à l'époque byzantine, donc c'est fini. Il est en cours de démontage pour construire des églises, et d'autres blocs sont en cours d'utilisation pour en faire des plaques débitées, pour faire des plaquages et des mosaïques. Pardon, je suis en train de partir dans le sens inverse. L'autre chose qui est tout à fait remarquable, si vous regardez les surfaces de sillage, les surfaces de coupe, elles sont remarquablement régulières. Vous avez ici même un arrêt de sillage, il y a deux arrêts avec reprise. On le verra après, c'était une machine qui était en cours d'étalonnage au moment où elle s'est cassée, et où elle n'a pas marché. Et vous regarderez ensuite, les surfaces sont remarquablement faites. Ce qui montre bien que là aussi, ce n'est pas du travail manuel, c'est un travail qui est donné par une machine, c'est-à-dire qui est beaucoup plus précise, et toujours des stries parfaitement horizontales, ce qui va avoir une conséquence au niveau de la restitution de tout cela. Voilà, donc ça c'était les éléments dont nous disposions. Comment restituer à partir de ces éléments la machine ? Alors bien sûr, il y a des petits croquis, on commence à proposer, on comprend vaguement le principe, et heureusement il y a des personnes comme Thierry Morin qui savent se servir d'un ordinateur, moi j'ai plutôt tendance à les casser, et en discutant avec lui, donc je lui ai donné des informations, et il a pu commencer à proposer un premier schéma qui permettait de coter grosso modo le système. Ce que l'on savait et qui était absolument assuré, c'est qu'on avait une chute d'eau, et donc obligatoirement une alimentation par en-dessus, c'est une roue par en-dessus. Comme en plus on sait que c'est un trop-plein de citernes, donc c'est le genre de roue qui donne le meilleur rendement avec la plus faible quantité d'eau disponible. Donc là aussi, on a quelque chose qui optimise au maximum les possibilités d'énergie fournie par le trop-plein. Les 4 mètres sont confirmés parce qu'on a les paliers qui sont conservés, on a le fond du canal qui est conservé, on a la hauteur, le début, si vous voulez, d'arrivée d'eau, etc. Ça ne pose aucun problème. La largeur de la roue, elle est connue. Nous avons là aussi les coursiers qui sont conservés, donc 60 cm de large, etc., etc. Les blocs, leurs emplacements sont tout aussi connus. Il suffit de les rerouler vers le centre, là où ils étaient. Donc on sait à quelle distance ils se trouvent. La dimension des blocs, 1,65 m sur 1 m, on sait donc que là, les scies font au moins 1,65 m plus, grâce aux traces que nous avons là, on sait qu'il y a probablement un excentrique, on va y venir, qui va donc avoir une course de 90 cm, donc 1,65 m plus les 90 cm, plus l'épaisseur du bâti, etc., plus une course minimale, vous arrivez très rapidement à une scie dont la dimension fait au moins 3,60 m. Il faut qu'elle ait au moins une course possible de plus d'un mètre de hauteur, ce qui vous, bien sûr, donne un minimum pour la hauteur de la scie qui approche les 1,90 m, même en étant vraiment au plus juste. Comme chacun bâti porte 4 lames, qu'elles sont espacées, on connaît les espacements, on connaît la largeur des lames, puisqu'on a les traces, on est obligatoirement avec des pièces de bois qui font au moins 20 cm de large. Donc le bâti de la scie nous donne un petit monstre, donc de plus de 3,60 m, de près de 2 mètres de hauteur, et qui pèse dans les 220-250 kg. Inutile de vous dire que ça entraîne automatiquement une autre obligation. Il faut qu'il y ait des guides. Obligatoirement. Ce n'est pas possible autrement. Donc on est obligé d'imaginer qu'il va y avoir un bâti rigide qui va permettre de guider les scies, etc., etc. À partir de là aussi, on a une distance minimum entre, bien sûr, la roue et la scie. Donc si on restitue une bielle manivelle, qui est le seul dispositif que l'on peut restituer, puisqu'on n'a aucune trace au sol qui nous permette d'imaginer qu'on puisse avoir, au contraire, un système à cam, donc on est obligé de restituer un système bielle manivelle. Et les traces que je vous ai montrées sur les murs du coursier correspondent effectivement au frottement de l'énorme pièce métallique sur laquelle vient se fixer la bielle, et qui est donc l'excentrique. Et c'est lui qui va frotter ensuite sur la paroi, la tête qui est de l'autre côté. Et donc vous avez ici à peu près entre 3,75 m de course pour le bois. Donc ça nous donnait déjà un certain nombre d'informations sur lesquelles on pouvait se caler. Ce n'est pas suffisant. À la différence, si vous voulez, de ce que l'on a normalement dans les restaurations et les problèmes d'architecture, on a ici une machine. C'est-à-dire, on n'est pas en train de remettre un bloc à sa place de départ et puis ça travaille uniquement de façon statique, ça ne bouge plus. Là, on a des pièces qui bougent, les unes par rapport aux autres. Et c'est beaucoup moins simple à imaginer. Il faut voir si, lorsque la course va dans un sens, est-ce que la machine fonctionne, jusqu'où, etc. Et c'est là où, effectivement, l'informatique et l'imagerie 3D prend toute sa fonction et toute sa puissance, si je puis dire. Toute sa puissance à condition de faire vraiment du dessin vectorisé, c'est-à-dire de construire réellement la machine point par point. Et c'est là où ben, il faut savoir faire. Je vous le dis tout de suite. Moi, j'admire, mais et j'utilise, mais je ne sais pas faire. Mais si vous voulez, le gros avantage d'avoir du dessin vectorisé, c'est qu'ensuite, vous pouvez tourner dans tous les sens, démonter la machine comme vous voulez, modifier des parties, etc. Évidemment, ce n'est pas très joli. Hein ? Non, mais je veux dire, ce n'est pas très joli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aura tendance à vous demander, on va y venir. Hein, tout à l'heure, on verra un petit peu ce qu'on peut faire, parce qu'à partir de ça, on pourra faire autre chose. On peut faire aussi un petit modèle, parce qu'il faut que la machine soit replacée dans son enveloppe physique. C'est-à-dire qu'on a des contraintes aussi qui ne sont pas uniquement la machine, qui ne sont pas uniquement l'eau, mais qui sont aussi le volume dans lequel elle est. Okay ? Il faut que tout ça puisse fonctionner. Il ne faut pas qu'au moment où la machine pousse, la scie bloque contre la paroi ou au contraire vienne buter contre l'autre. Donc il est très important d'avoir des modèles en 3D de tout l'ensemble, que l'on puisse éventuellement démonter en petits morceaux, retirer ce qui nous intéresse, regarder de près. Vous avez là quelques extraits. On peut tourner de tous les côtés. Ça, c'est ce que Thierry avait fait il y a déjà quelques années pour justement bien cerner l'ensemble du problème. On peut ensuite arriver à un niveau de détail qui permet même de matérialiser les assemblages de bois. Okay ? Donc là, on arrive déjà à un rendu plus sophistiqué, puisqu'on donne de l'ombrage, on donne de l'épaisseur, on donne des détails techniques, etc. Mais tout ça est en 3D réellement vectorisé. C'est-à-dire que ça dérive du travail purement de recherche. Là, on est en train de faire de l'habillage. Et puis, on peut pousser l'habillage, quand on sait faire, bien sûr, à un autre niveau, qui est celui-ci, où là, on donne quasiment le dessin que tout le monde va demander pour une publication, bien sûr, alors que ce n'est pas celui-là qui est important, c'est tout ce qu'il y avait avant, bien sûr. Mais c'est celui-là qui fera passer le message. On avait un problème, c'est que c'est bien gentil, on avait cette machine-là. Mais de quand datait-elle ? On savait que c'était une installation tardive, puisqu'on était dans les ruines du sanctuaire. On réutilisait des tambours de colonne du sanctuaire. Mais à quelle époque avait-on construit cette machine ? Alors on avait déjà un indice, c'est qu'à Djerash, on a une chance extraordinaire, c'est que la ville est détruite par un énorme tremblement de terre en 749 de notre ère. Et après, c'est quasiment fini, il n'y a quasiment plus personne. Et la ville est abandonnée pour près de 1000 ans, ce qui permet d'ailleurs qu'elle soit aussi bien conservée aujourd'hui, parce que les bipèdes ne l'ont pas digérée. Enfin, n'ont pas eu le temps de la digérer, parce que depuis, ils se rattrapent. Et donc, on savait que c'était antérieur au 8e siècle. Mais de quand ? Eh ben, on a une chance extraordinaire, c'est que les Américains qui ont dégagé, malheureusement, au-delà des niveaux de sol, l'intérieur de la salle, puisqu'on n'a plus aucune trace des niveaux de sol anciens, sauf un tout petit lambeau dans un coin, nous ont laissé une bonne surprise, ils nous ont laissé le remplissage du canal. Et donc la fouille du canal de fuite, qui est là, on avait tous les niveaux en place, nous a fourni un énorme matériel avec des dizaines de vases complets, des lampes, de la céramique, etc., du verre, des monnaies. Bon. Et tout ce beau matériel est parfaitement datable du milieu du 6e siècle de notre ère. Et on n'a rien de postérieur au milieu du 6e siècle de notre ère. Okay ? Ce qui veut dire que la machine est abandonnée au milieu du 6e siècle de notre ère, au plus tard. Donc on est sur une machine du 6e siècle. Et là, c'est la grosse surprise, bien sûr, parce que normalement, c'était le 14e siècle, en Europe et en Chine. Alors, bon, on peut déjà admettre que c'était au Proche-Orient, mais si on est au 6e siècle, c'est on est quand même quasiment 1000 ans avant. première surprise aussi, c'est qu'en regardant de plus près les murs du coursier, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, on a des blocs réutilisés qui portent des traces à nouveau de frottement, d'éléments circulaires, probablement d'une roue. Alors, je ne dis pas que c'est déjà une scierie, mais on a déjà une installation hydraulique précédente qui a été démontée, réutilisée pour cette construction-là. Donc, on sait qu'il y a une machine. La chose extraordinaire, c'est qu'un petit article d'une page dans Archaeologia a valu deux réactions. Une côté français, monsieur, vous racontez des carabistouilles. C'est une invention qui ne date que du XIVe siècle en Chine et en Europe. Et puis par contre, côté anglo-saxon, c'était pourquoi dites-vous ça? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on peut le traduire? Est-ce que ceci, gna gna? Puis alors, échange de mails, ça venait de Suède, de Norvège, d'Angleterre, des États-Unis. Alors, première fois de ma vie où ça se produit, je dois reconnaître que j'étais assez surpris. C'est la première fois où ça a été traduit automatiquement en anglais. Et ensuite, on m'a invité à un colloque qui se tenait à Éphèse. Et pourquoi? Mais parce qu'à Éphèse, ils avaient trouvé aussi une autre machine. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on en avait déjà une autre, on en avait deux, en fait. Et cette machine avait été trouvée aussi plus de 30 ans avant, mais était restée, non, un peu moins, 25 ans, et était restée inexpliquée parce qu'eux n'avaient malheureusement pas le coursier qui leur permettait de dire comment le sillage des blocs, qui pourtant était évident ici, avait pu être effectué. Ils savaient très bien qu'il y avait une installation hydraulique. Mais la seule publication que l'on possédait de cette machine, c'était un article dans un journal turc qui mentionnait qu'on avait trouvé un drôle de machin lors des fouilles qui étaient en cours sur le site. Rien d'autre. Pourquoi? Mais parce que les archéologues aussi ont cette manie de dire « je ne fais que des publications définitives ». Un archéologue, ça ne se trompe jamais, vous savez bien. Alors qu'on devrait savoir qu'on ne fait que se tromper. Et donc, on ne publie pas tant qu'on n'est pas absolument certain de ce qu'on va avancer. Alors au lieu de donner au moins l'information, en disant « on a quand même quelque chose d'extraordinairement bizarre », mais l'information même n'était pas passée. Et comme toute la zone était fermée au public, parce que c'est une zone qui est en cours d'aménagement, bah en dehors des quelques archéologues qui étaient là, personne ne savait. Et alors, la découverte de Djerash permet bien sûr d'expliciter ce qui se passe là, sauf qu'à Éphèse, la roue était tenue par des énormes poutres en bois. Il y a une raison technique à ça, bien sûr. Mais le système est le même. Et on voit très bien qu'on débitait deux fois deux plaques, et non pas quatre fois, deux fois quatre plaques comme à Djerash. Donc une deuxième machine. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'au cours de la présentation donc d'Éphèse, de la première machine de Djerash, ici vous avez une restitution qui maintenant est proposée par les Allemands, les Italiens qui travaillaient à Hierapolis, juste à côté, sont sortis de la salle précipitamment, puis sont revenus quelques minutes après avec une photo d'un bas-relief qui existait, qui était connu depuis un siècle et demi, et dont personne ne comprenait le sens, et qui était un bas-relief de la nécropole de Hierapolis, et dans lequel vous voyez quoi? Vous voyez une roue avec son alimentation ici. Alors bien sûr, c'est à l'antique, hein, c'est écrasé, éclaté, aplati, mais on voit très bien l'arrivée d'eau, la roue, la transmission. Vous avez ici les deux... Alors il y a une discussion pour savoir si ce sont des pignons maintenant ou pas. Enfin, bon, en tous les cas, il y a un dispositif qui est relié... ici, à une scie à cadre vertical qui est en train de débiter un bloc, et une deuxième scie à cadre tout aussi vertical en train de débiter un deuxième bloc. Donc on a là une représentation antique d'une machine telle qu'on l'avait restituée sans savoir que le bas-relief existait. Et pour une fois, c'est la restitution archéologique qui permet d'expliciter de l'histoire de l'art, entre guillemets. Donc c'est assez amusant. Mais le plus prodigieux, c'est que vous voyez qu'il y a une inscription. Et l'inscription, c'est simplement l'épitaphe du gars qui est enterré. Et qui est ce charmant monsieur? C'est un Julius Yamianus, qui est un ingénieur mécanicien, comme par hasard. Et il est de la fin du IIIe siècle. Alors on savait déjà que la machine de Djerash était tellement sophistiquée que ça ne pouvait pas être un prototype. J'avais écrit dès le début, ce n'était pas possible que ça soit un prototype. Ben voilà, on le voit très bien, le prototype, il est plutôt là, hein, du côté de Hierapolis. Il y a beaucoup plus d'eau en Turquie, il y a des villes aussi qui sont des très grandes villes qui ont besoin énormément de matériaux, etc. Donc on a maintenant la quasi-certitude que dans l'Antiquité, on a bien développé, ils ont bien mis au point et ils ont bien utilisé. Mais alors pourquoi finalement est-ce que ça s'est perdu? Parce que finalement, on va avoir une perte totale de cette découverte scientifique qui est majeure, puisque c'est la transformation quand même, savoir comment transformer un mouvement Et ça ne réapparaîtra effectivement qu'au XIVe siècle, en Chine. Bon, alors après, on peut dire XIIIe ou XIIe, ça discutera, ce n'est pas un problème. Mais parce que, tout simplement parce qu'il y a un problème majeur dans ces machines, c'est qu'il manque une pièce. Mais il manque une pièce essentielle, dont on ne se rend pas du tout compte quand on fait les restitutions graphiques ou quand on y réfléchit, parce qu'on réfléchit sur les principes. Mais il va manquer ce qui permet de sauver la machine au moment où il y a un problème. C'est-à-dire que tout ça, c'est très bien, ça fonctionne s'il n'y a pas d'ennui. Si vous avez une des scies qui bloque, il faudrait pouvoir interrompre instantanément le moteur. Or, vous ne pouvez pas. Avec ce genre de moteur, c'est qu'une roue alimentée par en-dessus, même si vous coupez l'eau instantanément, elle fait au moins un quart de tour. Il faut qu'elle se vide. Donc, de toute façon, c'est impossible d'arrêter la machine, même s'il y a un problème. Donc, la machine casse. À moins que vous ayez une pièce qui est un système de débrayage automatique. Eh bien, ça, on n'a pas su le mettre au point. C'est ce qui sera mis au point progressivement donc, à partir de l'époque médiévale. Et c'est ce qui fera que l'époque médiévale sera finalement la véritable période où on a inventé, où on a remis au point et où on a su maîtriser totalement la machine. Encore une fois, ça veut dire que la mise au point, ou plutôt l'invention d'une technique, l'invention n'est rien tant que la mise au point n'est pas effective. Si vous voulez un exemple très simple, je veux dire, la propulsion par réaction est connue presque de toute antiquité. La maîtrise d'envoi dans l'espace d'une fusée est quand même assez récente, et on a quand même encore quelques fois quelques surprises. Un deuxième point aussi qui nous a semblé tout à fait fondamental, évidemment, c'est qu'en tant que chercheur, une fois qu'on a réussi à trouver tout ça, on est très content, on est invité dans des colloques, ben voilà, par exemple, c'est parfait. C'est parfait, sauf que il peut y avoir des idées un peu bizarres, c'est de dire, mais comment ont-ils fabriqué? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on peut faire? Etc. Alors, il vient une idée saugrenue, c'est de reconstituer la machine. Je dis saugrenue parce que vous avez beau appartenir à quelquefois des organismes dont la fonction et la vocation est celle justement de faire de la recherche et de promouvoir, ce genre d'application n'est pas très bien vu. Et des spécialistes n'en veulent pas. Et il se trouve que les seuls qui ont répondu oui, c'est une école professionnelle de Loche, un lycée de la taille. Et on a présenté ça comme étant l'épreuve de l'année pour les étudiants de bac pro en menuiserie. Et donc, ils ont reconstitué la roue avec les pièces. Vous avez l'équipe qui est là. La machine a été reconstituée dans l'atelier. Vous voyez que c'est quand même un monstre. Ça fait quand même 4 mètres de haut et une dizaine de mètres de longueur. C'est énorme. Et la première des choses, c'est ça déjà. C'est qu'une fois que vous la reconstituez matériellement, première surprise, c'est la taille. La deuxième surprise, c'est le poids, chacune des pièces. Parce que quand vous les portez vous-même, c'est là où vous réalisez que c'est pas du vectoriel, là. C'est autre chose. L'autre intérêt, c'est que vous êtes avec des professionnels du bois. Et les professionnels du bois, ils vous disent, mais qu'est-ce que tu nous as mis ici? C'est impossible à construire. Ou ça serait plus simple à faire comme ça, ou ça serait plus solide comme ça. Donc déjà quand, lors de la fabrication de la maquette au dixième, parce qu'au départ, moi, j'ai pris quelques Legos à mes enfants pour faire juste une maquette de principe, pour montrer comment ça fonctionnait. Et puis quand on est passé à l'échelle du dixième pour la faisabilité, il y a déjà eu plein de choses qui ont été modifiées. En discutant avec les professeurs. Et puis, une fois qu'on a eu reconstitué la machine, on a pris les élèves et le matériel et on est allé la remonter à Djerash. Là, vous avez la première étape. On vient d'arriver. Il ne pleuvait plus la veille. Donc, c'est un peu... c'est la pause progressive, le montage de la roue. Et vous voyez, ce qui a entraîné ici, probablement, enfin je ne dis pas que c'est ça, attention, on est quand même là aussi, prenez conscience que c'est une totale reconstitution. C'est une interprétation des traces que l'on a, et on fait la reconstitution, et c'est de tenir au mieux compte de ces traces. Mais je ne dis pas que la machine ait été comme ça. C'est une possibilité de ce qu'a pu être cette machine. Et l'idée, si vous voulez, c'est que vous avez un excentrique, sur lesquels est fixée, bien sûr, la bielle, et que la tête de cet excentrique à frotter, qui est donc à l'arrière, bien sûr, hein, de tout cela, et que c'est elle qui va frotter contre la paroi et qui va entraîner ces traces. La machine reconstituée. Ben voilà. Et alors, bien entendu, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que lorsque vous reconstituez cette machine et que vous la remettez en place, ben, il y a d'autres éléments qui vous sautent aux yeux. Ben, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la construire d'une certaine manière, ou on ne peut pas la construire autrement que d'une certaine manière. Je m'explique. Vous êtes dans un espace clos. Et là, l'espace clos, les parois sont des parois physiques qui existent, incontournables. Vous arrivez avec une pièce de bois qui fait 4 mètres. Il y a déjà une pièce de bois plantée au milieu, eh ben vous ne passez plus. Donc vous allez avoir un ordre de construction. Il va falloir mettre en place suivant un certain principe. Il va falloir respecter un certain nombre d'étapes dans la construction. Et il y a des choses qui ne vont pas être possibles parce que vous ne pourrez pas mettre en place un certain nombre de pièces si vous n'avez pas prévu un certain nombre de choses. Et puis, l'autre expérience, c'est qu'on a pu, à ce moment-là, bénéficier d'une énorme grue qui a pu déplacer les tambours de colonne, ce qui les a rendus beaucoup plus lisibles. Et une chose qui pourtant aurait dû me sauter aux yeux au départ et que je n'avais pas vu, parce qu'on travaillait sur les principes et non plus sur les détails, c'est que toutes ces traces de cycles qu'on avait ici sont toutes rigoureusement parallèles, dans les deux directions, même dans les trois, même si vous préférez, donc dans le sens vertical comme dans le sens horizontal. C'est-à-dire que vous avez ici les quatre premières qui sont parfaitement parallèles aux quatre autres ici, et dans le sens vertical aussi. Ça veut dire qu'on n'a pas déplacé le bloc au moment où on a changé le sillage. C'est-à-dire qu'on a déplacé la scie et non pas le bloc. Et il y a là quelque chose de tout à fait surprenant. Parce que ça veut dire que vous êtes obligé d'imaginer la bielle doit rester la plus droite possible, c'est-à-dire qu'elle est sur un axe. Et si vous la mettez en oblique, elle frotte d'un côté, ce qui est impossible, et de l'autre, bien sûr, elle travaille mal et vous avez des efforts secondaires considérables. Donc vous êtes obligé d'imaginer que la bielle, elle, ne bouge pas. Mais si vous déplacez la scie, donc il doit y avoir un dispositif qui permet d'avoir trois positions pour la scie. Ce qui veut dire que si vous avez trois positions pour la scie, vous êtes obligé d'avoir un bâti qui permette lui aussi ces trois positions pour la scie et qui puisse guider la scie dans ces trois positions. C'est-à-dire que le bâti qu'on avait reconstitué ne correspondait pas à ça, ne respectait pas ces informations que l'on avait là sous les yeux, fondamentales. Et c'est une fois qu'on l'a eu remonté, bien sûr, qu'on s'en est aperçu. Je dirais que je n'étais pas très fier. Donc il a fallu changer, dire bon, on a un problème, c'est pas comme ça que ça se passait. Et donc Thierry a repris ses pinceaux, si je puis dire, on a refait des maquettes informatiques qui tiennent mieux compte de tout cela. On avait un autre problème aussi, on s'est aperçu que la bielle, sur l'ordinateur, elle pèse rien, la bielle. Hein ? Dans la réalité, elle pèse 250 kilos. Il fallait un contrepoids. Quelque part, parce que sinon, la scie, elle plonge là, quand elle est en traction. Donc, il faut des contrepoids. Or, à Gérache, on ne les avait pas trouvés, mais à Éphèse, ils y sont. Et il n'y en a justement que d'un côté. Donc, on a une série d'informations qui permettent de modifier complètement le bâti. Voilà la nouvelle proposition, avec ici la possibilité de mettre des pièces de bois pour changer la position de la scie, etc. Et cette année, on a refait la même chose avec un autre groupe, toujours du lycée de La Taille. Ils ont fabriqué pendant l'année tout le nouveau bâti. Vous voyez qu'il est encore plus... Déjà, le premier était assez impressionnant. Le nouveau est réellement une vraie structure. Hein. C'est une vraie construction, avec les poulies, etc. Vous le voyez ici, avec la possibilité de mettre la scie ici, là ou là, en déplaçant les deux pièces de bois qui sont ici, sont mobiles à l'intérieur d'un bâti fixe. Ces pièces ici et ici sont fixes. Les deux, là, sont mobiles. On a mis ici la scie en position extrême sur la gauche. Vous l'avez ici en position médiane, qui est la plus favorable. Donc, il ne nous reste plus qu'une seule chose maintenant, c'est à la remettre à eau, parce qu'on va le faire, on va la remettre à eau, et la tester grandeur nature. Vous avez ici la première équipe, et là, la deuxième équipe, avec son Altesse le prince Hamzé, qui est le fils du roi Hussein, qui a eu la gentillesse de venir inaugurer cette machine. Voilà. Tout cela pour dire quoi ? Pour dire que lorsqu'on travaille, on oublie que la réalité, ce n'est pas uniquement un dessin, ce n'est pas uniquement une idée. Je vous redonne un autre exemple. Il est évident que sur les dessins, et vous allez voir ici, sur la machine, elle va scier. Vous allez voir que sur les dessins, tout marche très bien, sans aucun problème, et que les lames, par exemple, sont parfaitement tendues. Or, arriver à tendre quatre lames indépendantes, qui n'ont pas forcément la même longueur, sur un bâti fixe, vous avez un sacré problème. Et je vous garantis qu'on n'y est pas arrivé vraiment facilement. Or, à quoi vous sert d'avoir une machine qui vous a coûté quand même une somme plus que considérable si vous n'êtes pas capable d'assurer son fonctionnement simplement parce que vous n'avez pas prévu la mise en tension correcte des lames? C'est un détail, me direz-vous, exactement comme l'embrayage. Mais l'embrayage, ils n'ont pas su. Les lames, ils avaient su, parce que ça, c'est probablement quelque chose que la pratique ancienne leur permettait de faire. Mais l'embrayage, ils n'ont pas su, et la machine aurait été faite en pure perte. Donc ce sont ces détails-là dont on prend conscience petit à petit dans la mise en œuvre, non plus simplement de l'idée ou de la mise en œuvre d'images de synthèse, aussi belles soient-elles, et que là, seulement le contact avec les matériaux vous permet de prendre en charge et de tenir compte. Je vais vous repasser la très belle... Voilà. Ce que Thierry a fait, vous avez là devant vous une très belle image. Elle a été reprise par la BBC, qui a pillé ça, parce qu'il y a eu deux films déjà de la BBC. Les côtés français, ça n'intéressait personne. Mais la BBC a déjà pris ça à deux reprises, sans mentionner, bien sûr, l'origine, bien entendu, de tout ça. Mais vous allez regarder cette image. Vous l'avez trouvée très belle, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui vous a choqué. Et pourtant, il n'y a pas quelque chose qui vous choque?
Non,
les deux fonctionnent en même temps. Oui, les deux fonctionnent en même temps. Non, c'est pas ça. C'est que Thierry a fait une restitution, puis après on s'est amusé. Parce que tout le monde faisait « Oh, ah !» Nous, ce qui nous intéressait, c'était justement au contraire que les gens disent « Mais pourquoi si ?» Ben, votre réaction. Parce qu'aussi, on peut imaginer que les si soient alternés. Ils ont probablement testé, d'ailleurs. Et c'est probablement pour ça qu'à un moment donné, ça a twisté, et avec les traces, etc., et qu'ils sont revenus à un système plus logique, mais moins puissant, etc. Mais non, on s'est amusé avec Thierry à faire quelque chose et personne ne l'a remarqué sauf un étudiant. Comme quoi les étudiants, ça sert. Vous ne voyez pas? Mais regardez, ici, le petit détail. Vous voyez là? Ben là, vous avez la scie, le cadre de la scie qui rentre dans le poteau, qui le guide. Vous voyez ici aussi? Vous ne le voyez pas? Ah, pardon. Ah, moi, ça marche sur mon...
Ah, ça ne marchait pas sur le... Non, d'accord. Ici. Vous voyez? C'est-à-dire que mathématiquement parlant, la scie n'est pas... Elle devrait être ici dans le logement. On l'a décalée de 10 cm et actuellement, elle pénètre à l'intérieur des supports. Ce qui, dans la réalité, est bien sûr strictement impossible. Ah, mais vous voyez que pour l'ordinateur, il n'y a aucun problème. Ça marche tout seul.
Eh oui, bien sûr, parce qu'on a donné comme information à l'ordinateur de le faire fonctionner. Et mathématiquement, il n'y a aucune raison que... Voilà. Alors, on a des logiciels qui, aujourd'hui, si on va chez Dassault ou ailleurs, on préfère avec des logiciels qui permettent de dire, non, on considère que ces volumes-là sont des volumes pleins, etc. Et pas, bon, utile de vous dire, Thierry a fait ça, sur ses fonds personnels, hein, et je n'ai même pas été capable de lui trouver 3 mois de travail pour pouvoir le remercier. Donc, c'est... Mais on a fait exprès. On a fait exprès pour montrer, en fait, que la puissance de l'image aussi est quelque chose de destructeur au niveau de la réflexion. Aussi bien pour le public, mais aussi bien pour nous. C'est-à-dire que de temps en temps, il vaut mieux avoir ce que vous avez vu tout à l'heure, du filaire, Et il ne faudrait pas que les étudiants l'oublient. Le filaire, c'est justement ce que vous avez au départ, là, l'espèce de trame qui n'est pas très jolie, ça ressemble à... c'est vraiment très, très mathématique, etc. Mais ça vous empêche d'avoir l'œil attiré par le matériau, le rendu de la paroi, l'eau qui coule, etc. Et ça vous remet automatiquement dans l'objet même de la recherche, qui est la forme et la restitution de l'objet. Donc voilà. Alors, cette machine, donc, maintenant, va, je l'espère, fonctionner. On va la tester. Elle était un petit peu, bien accueillie, c'est le moins qu'on puisse dire, côté jordanien. Elle permet, je pense, au niveau de l'histoire des techniques, quand même une remise en cause, non seulement de ce que les anciens ont pu faire ou ont pu tenter, moins parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi complètement la mise au point, mais plus au niveau des idées. Vous savez qu'on avait une fâcheuse tendance, enfin certaines personnes avaient une fâcheuse tendance à dire qu'il y avait même un blocage psychologique chez les anciens pour certaines mises au point d'une mécanisation du travail. Donc il y a toute une école qui nous dit non, ils n'étaient même pas capables de penser à ça. Et donc, c'est normal, ils ont préféré l'esclavage, etc., etc. C'est pas vrai. Ils étaient absolument comme nous. C'est-à-dire que si on pouvait se fatiguer un petit peu moins, tout en gagnant un petit peu plus, ils ne faisaient certainement pas, ils ne crachaient pas sur la solution. Le problème, c'est que techniquement, il y a un gouffre entre l'idée et sa mise au point correcte. Et ça, je crois qu'il faut absolument en avoir conscience. C'est peu visible sur les bâtiments où on travaille que de façon statique et où on ravale dans la masse et où c'est bon, on s'en fiche éperdument. Ça tient, c'est pas un trop gros problème. Mais où ça devient fondamental dès qu'on arrive sur des parties en mouvement, c'est-à-dire sur des pièces mécaniques, sur des parties qui bougent. Et là, les détails deviennent très importants. Très importants. C'est la maîtrise de ces détails. Et le problème que l'on a aujourd'hui dans nos recherches, et j'en parle en connaissance de cause parce que je me suis cassé la tête dessus aussi, hein, je vous l'ai montré, j'espère, c'est qu'on peut s'arrêter à la présentation de l'idée. On peut dire, voilà, on a la preuve que les anciens maîtrisaient la technique de la bielle manivelle, point. Voilà. Oui, ils l'avaient expérimentée. Non, ils ne la maîtrisaient pas. Non, ils ne la maîtrisaient pas complètement. Or, si vous regardez simplement les preuves archéologiques, oui, ils la maîtrisaient. Et c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs la première fois. Et aujourd'hui, je vous dirais, oui, ils la maîtrisaient, mais non, oui, ils la connaissaient, mais non, ils ne la maîtrisaient pas. Okay ? Donc je pense que ça, c'est l'apport très important de cette découverte, à mon point de vue. C'est de montrer, que ça a été expérimenté, mais que l'expérimentation est une chose, que la mise au point est une autre. La deuxième chose aussi, c'est qu'au niveau de l'utilisation de l'imagerie 3D, c'est fondamental aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été très important. Et moi, je remercie beaucoup Thierry d'avoir pu, malgré les conditions, consacrer autant de temps à la mise au point de ces images, qui, en arrière-plan, on ne s'en rend pas compte, contiennent énormément d'informations qu'il a fallu traiter, comme il a réussi à le traiter. Mais que cette imagerie, il faut s'en méfier. Il faut utiliser l'informatique en tant qu'outil, d'abord et avant tout, dans nos recherches. Qu'ensuite, ça soit utilisé ou utilisable pour d'autres applications, tant mieux. Mais on voit aujourd'hui, malheureusement, et en particulier pour des restitutions de monuments, vous commencez à avoir des dictionnaires de formes. Tiens, vous avez besoin d'un chapiteau corinthien, plop, ou cliché, vous allez chercher un chapiteau corinthien. Oui, il est presque comme celui que vous avez sur le terrain, il ressemble. Oui, la colonne, elle est aussi pratiquement du bon diamètre. Bon, puis on l'étire, puis on fait une belle image. Et on voit de plus en plus aujourd'hui de belles images proposées et qui ne tiennent absolument pas compte de la réalité. Et pourtant, la réalité est encore bien plus passionnante. Voilà, je vous remercie. J'espère qu'on est dans les temps.
Merci beaucoup, Monsieur Sein. C'était une très belle histoire et vous êtes vraiment très pédagogue. Enfin, on était sous le charme de cette histoire qui n'est pas finie, d'après ce que j'ai compris. Et qui est ce Monsieur Thierry qui, voilà, bonjour Thierry, donc, qui a été souvent cité. Donc, c'est un travail aussi de collaboration.
Absolument, c'est un travail en collaboration dès le départ, Un, avec Thierry pour la partie informatique. Deux, même sur le terrain, parce que j'étais sur le terrain des Italiens, c'est la zone italienne. Je dois reconnaître que ce n'est pas évident. Je ne sais pas si j'aurais aussi bien réagi que Roberto Parapetti, qui est le directeur de la mission italienne, si quelqu'un était venu sur mon chantier en me disant « Tiens, tu n'as pas vu ça, c'est génial, est-ce que tu m'autorises à le publier ?» Chapeau, il l'a fait. Hein, donc, ça, c'est pas tous les jours qu'on peut le voir, pas tous les jours qu'on s'en rend compte. Merci aussi à la fois aux Jordaniens qui ont bien poussé la roue. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais tout ça, ça coûte quand même des sous. Hein, surtout la partie, je ne parle pas de Thierry qui n'a malheureusement pas été payé, lui. Pas même d'ailleurs en remerciement par les télévisions britanniques. Mais par exemple, la mise au point de la machine, la fabrication, etc., a quand même coûté un petit peu. Et si nous n'avions pas reçu des aides, notamment de la région, la région centre a été vraiment magnifique de ce côté-là, mais la région, comme tout, n'a pas que ça à gérer. Et puis c'était au départ, ce n'était pas aussi évident. Donc on a pu bénéficier aussi de la ville de Loche, il y a le Rotary, il y a la Maïf, tout le monde y a essayé d'y participer, et y compris les Américains. Alors ça, c'était une chose qui était absolument extraordinaire, parce que là, pour la deuxième phase, il nous manquait quand même près de 15 000 euros. C'était les prix des billets d'avion et le transport pour la machine. Et avant qu'on ait un nouveau sponsor français qui se déclare, parce qu'on a eu la chance d'avoir la CGPME qui est venue derrière nous aider aussi, les Américains sont venus sans qu'on les appelle. Ils nous ont dit, voilà, il vous faut combien ? 15 000 euros, prof, vous n'en voulez pas plus ? Voilà, grosse différence. Donc là aussi, merci à toutes les personnes qui ont participé. Je dirais aussi un autre merci à tous ceux qui sont venus à Loche quand on a présenté la première fois la machine dans l'atelier, parce que tout le monde s'y est passionné. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi d'extraordinaire, c'est que le lycée, à partir du moment où la machine a été en cours d'élaboration, s'est organisé même autour de tout ça. C'est-à-dire que les professeurs de dessin ont fait des cours sur l'art de la mosaïque, etc. Les professeurs d'anglais ont travaillé aussi sur l'anglais. Etc. Les professeurs de géographie ont fait savoir que la Jordanie se trouvait au Proche-Orient, etc. En histoire aussi. Etc. Et il y a eu une exposition en parallèle de la construction de la machine. Le journée portes ouvertes. Et tout le village était au courant. Enfin, la ville de Loche, parce que si j'ai dit le village, toute la ville de Loche a défilé. Et on a eu des réactions tout à fait passionnantes. C'est-à-dire qu'on a eu des anciens qui sont venus. Et c'est là où, par exemple, l'histoire des cales pour tendre les scies, c'est un pépé, oui, il était un petit peu plus âgé que moi, mais bon. Il avait travaillé dans une carrière. Et il a rigolé quand il a vu comment on prévoyait de tendre les scies. Il m'a dit, mais ça ne tiendra pas. Il ne faut pas faire comme ça. Il faut mettre les cales dans un autre sens. Il faut mettre un autre bois. Il faut choisir... Des tas de petites astuces auxquelles on ne pense pas, mais que la pratique va donner. Donc, et ça, c'est uniquement les techniques qui sont perdues aujourd'hui. Hein, totalement perdues. On ne s'en rend plus compte, mais c'est totalement perdu. C'est cette pratique artisanale qui permettait de gérer des problèmes très secondaires, a priori, qui sont vraiment mineurs, qui n'ont aucun intérêt, dans l'histoire des techniques, etc., et qui sont fondamentaux pourtant, parce que ce sont eux qui permettent le fonctionnement réel de la machine.
Okay. Non, mais c'est vraiment une belle aventure. En plus, l'application avec des élèves de lycée professionnel, je pense qu'il faut vraiment prendre cet exemplaire. Hein, vraiment.
Alors là, si vous me le permettez, je ferai un dernier compliment. C'est-à-dire que le projet a été proposé à d'honorables institutions de différents types, que ce soit de recherche ou de formation, qui n'ont même pas daigné répondre. Et c'est donc ce petit lycée de Loche qui a répondu présent. La première fois, il y avait un proviseur, donc là, maintenant, c'est une proviseure. Dans les deux cas, ils ont répondu présent. Et je suis très content de savoir, je vous l'annonce, si vous voulez, que ce projet a reçu le label UNESCO pour l'éducation. Donc, voilà.
Oui, j'ai... Moi, je suis bluffé, bien sûr. Mais bon, moi, j'ai un bac philo, alors je suis quelqu'un qui ne comprend rien à ces choses-là. Je suis soufflé.
Ça m'étonnerait.
Tu as dû servir, évidemment, tu as dû être l'eau qui a fait marcher le moulin de Loche aussi. Parce que c'est ça l'important aussi. Parce qu'il faut savoir montrer, se passionner, etc. Enfin, je trouve ça magnifique. Alors, ce qui me rassure quand même un peu, c'est que t'es passé pendant 15 ans devant les pierres.
Ah, ben, oui,
ça,
oui,
j'aurais
oui.
fait la même chose, je dirais même plus longtemps. Mais t'as quand même mis 15 ans à comprendre. Hein.
Ah oui, non, mais tout à fait.
Je le répète, il n'y aurait pas eu
cette question, j'allais dire idiote, comme toujours, là, de Mademoiselle Bertaudière. J'aurais jamais pensé à travailler sur le problème des sillages de pierre. Et donc, je n'aurais été que l'un de ceux qui sont passés devant pendant. Donc, la découverte est une découverte qui n'est même pas à la limite de ma part. C'est ça qui est extraordinaire aussi, si vous voulez. C'est que quand on va sur des chantiers, bon, le SRA est présent, on sait très bien qu'on est obligé de nous dire bon, quel est votre projet, pourquoi voulez-vous avoir un financement, que cherchez-vous, dans quelles conditions, etc. Ce qui est normal, c'est obligatoire. Et puis, tout d'un coup, pendant que vous cherchez, ben, y a un truc bizarre. Mais vous n'êtes pas préparé à ça. C'est pas ce que vous cherchez. Moi, je travaillais sur un monument qui est un temple. Donc, on a des problèmes de restauration pour le temple. On cherche des blocs dans le site pour savoir les blocs qui ont été transportés, réutilisés dans les édifices byzantins, etc. Donc, on regarde à droite, à gauche. Il y en a qui avaient été transportés dans le musée par les Américains, d'où ma venue dans ce coin-là. On voit des trucs, exactement comme on en voit des centaines sur le site, des milliers sur le site. Et on les enregistre machinalement. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que on enregistre malgré tout. On enregistre malgré tout, mais ça ne sert pas. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Donc, c'est dans un coin. Et il faut qu'il y ait un déclic à un moment donné. Il y a un déclic qui se fait. On ne sait pas pourquoi. Ça peut être un jour, tiens, on a déjà vu notre bout comme ça quelque part.
Mais parce que c'est ta maturation aussi. Hein.
Oui.
C'est toute une culture que tu as et une expérience et qui fait qu'à un moment donné, il y a eu le déclic.
Pas dans ce cas-là. Ça a été vraiment une question faite par une étudiante sur un problème qui était un problème français au départ. Et c'est simplement parce qu'elle avait des traces qui étaient regroupées par trois, parfaitement horizontales.
C'est ça.
Que du coup, ça m'a fait penser au bloc de Gérache. Que comme elle me posait des questions précises, que c'est un domaine que je ne connaissais pas bien, ça m'a obligé à lire moi aussi un petit peu de bibliographie, et que de fil en aiguille, on s'intéresse à la bibliographie, et puis qu'on trouve une série d'articles très particuliers, donc de chez les Anglo-Saxons, avec ce fameux poème d'Ozone, qui est tout à fait et qui avait entraîné, ça faisait près de 30 ou 40 ans. Pardon.
Ozone qui n'était pas du tout un spécialiste des moulins à acier.
Ah, pas du tout, mais Ozone est un poète pur. Hein, et c'est pour ça que la conclusion auquel arrivent les spécialistes, c'est de dire non, c'est une forme poétique. Hein, bon, il y a des bruits, quelque chose. Gars font en sciant des blocs, ça fait du bruit, et ça le dérange, alors qu'il est en train de regarder les petits oiseaux, les poissons, et les fleurs, etc. J'en sais rien. Mais donc, on arrive à la conclusion que c'est ça, que c'est pas possible. Okay? Parce qu'on n'a pas de vestiges. On n'a aucune trace. Tout ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui ne correspond à ça.
Oui.
Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que donc, de fil en aiguille, il y a tous ces articles qui existent. Et c'est là où le déclic se fait. Mais derrière les blocs, dans le mur, il y a bien une chute d'eau là, avec des enduits. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on se dit, mais c'est pas possible. Deux blocs en cours de sillage, abandonnés en cours de sillage, dans un endroit où il y a peut-être un moulin hydraulique, c'est peut-être le machin qu'on cherche depuis toujours et qu'on dit qu'il n'existe pas. Et en fait, il y en a un. Et le simple fait de dire que ça existe, eh ben, vous avez tout de suite le gars qui dit, tiens, nous aussi, on a un truc bizarre. Et je suis sûr qu'on va en trouver d'autres maintenant.
Le plus étonnant, c'est le bas-relief.
Ah oui.
Ça, c'est le bas-relief.
C'est une reconstitution là, qui est étonnante. Et est-ce que vous êtes... Enfin, je me demande combien de temps pouvait durer une machine. Vous êtes posé cette question. Au bout de combien de temps elle cassait?
Ah ben celle-là, à mon avis, elle a cassé très rapidement.
Ça devait être fou comme travail après à refaire, etc. Enfin,
oui, alors, ils ont eu deux problèmes. C'est-à-dire que... Bon, je ne vous en ai pas parlé, mais... Je termine juste sur ce petit point, pardon. En fait, on a trois blocs en cours de sillage. On en a retrouvé un autre cette année, qui est un tout petit bloc, alors que les autres sont des énormes blocs, etc. Ça, c'est un tout petit, et c'est probablement celui qui a servi à tester le tout début. Il n'est pas plus épais que ça, et il fait 80 cm sur 60, à peu près. Et il y a les quatre traces de sillage dessus. Donc on voit très bien que c'est à nouveau, avec les quatre lames, et c'est probablement celui qui a été mis juste pour faire démarrer la machine. Et il devait y avoir une scie qui fonctionnait à ce moment-là. D'accord ? Ils se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils avaient probablement l'axe de la roue qui était trop haut. Donc la roue, ça devait mal fonctionner, etc. Et on s'aperçoit de quoi? C'est qu'ils ont abaissé le niveau de la roue, de l'axe de la roue. Parce que le fond du canal a été surcreusé. C'est-à-dire que tout était parfaitement enduit. Et on a trouvé le fond du canal qui avait été complètement surcreusé. Et ça ne s'explique que si on a eu besoin soit d'augmenter le diamètre de la roue, ce qui veut dire qu'ils ont changé complètement la roue, ce qui est possible, soit qu'on a rabaissé, ce qui est plus vraisemblable, l'axe de la roue. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a les deux blocs qui sont en cours de sillage. Il y en a un sur lequel il y a deux, il y a deux amorces de sillage, enfin 4 plus 4, et l'autre qui n'en a qu'une seule amorce. Donc ils n'ont pas été travaillés tous les deux en même temps. Donc il y a eu un premier bloc qui a été mis en coupe, alors que l'autre n'était pas. Donc encore une fois, une seule scie qui fonctionne. Donc ça ressemble là aussi, non pas à la production, ça ressemble à un test, à nouveau. Et on a le deuxième test qui est en cours, alors là sur les deux blocs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur l'un des blocs, on a des traces, des marques, exactement comme si on avait calculé quelle était la profondeur obtenue après une heure, après deux heures, après trois heures, etc. Et sur l'autre côté, on a une des lames qui a cassé. On a une des lames qui a cassé et ils ne s'en sont pas aperçus. Enfin, ou tout au moins, ils n'ont pas arrêté la machine. Et ils n'ont pas arrêté la machine. La machine a continué de descendre à peu près de 12 cm avant qu'ils arrêtent. Ou avant que la machine ne s'arrête elle-même en ayant tout cassé. Donc, je pense qu'on était dans la phase d'étalonnage, de mise au point de la machine et qu'elle n'a pas réellement fonctionné. D'accord. Qu'elle n'a pas réellement fonctionné.
Dans l'hypothèse où la machine aurait fonctionné, elle a peut-être fonctionné ailleurs, enfin dans d'autres trucs. Hein. Je voudrais savoir d'abord, est-ce que vous avez une idée de la façon dont une équipe de travail pouvait être organisée sur place ? Je n'ai peut-être pas eu le temps de voir tout ça. Et puis deuxièmement, somme toute, quel était ce multiplicateur de travail ? Finalement, qu'est-ce que ça permettait d'économiser en fait de main-d'œuvre et de...
Alors, je pense qu'au niveau de la main-d'œuvre, la machine en fait débitait 8 plaques de pierre. En même temps. Enfin, elle était prévue pour ça. Des plaques qui font quand même plus d'1,50 m carré. Okay, donc c'est quand même des très grosses plaques. Et c'est une pierre très dure qui est à la limite plus dure que du marbre. D'accord ? Donc c'est un travail qui est extrêmement fastidieux à la main. On a sur le site d'autres tambours qui étaient en cours de sillage à la main. Et les traces sont totalement différentes. Hein. On voit très bien qu'il devait y avoir une demande très importante de plaquage. C'est la période où il y a une explosion de construction des églises, où on a des pavements de sol, on a des mosaïques, etc., etc. Donc il y a une très forte demande de plaquage ou de pierre dure en faible épaisseur, et que ça devenait rentable, certainement, d'investir dans une machine. Ce qu'on voit, c'est que la machine de Gerache, à mon avis, n'a pas fonctionné. Mais ils ne l'ont pas lancée comme ça. C'est quelque chose... On connaissait ce genre de machine. C'est ça qui est extraordinaire. Et la découverte d'Éphèse, qui est un peu plus tardive, Éphèse est du 7e siècle, qui a fonctionné mieux que celle de Gerache, mais qui a eu elle aussi des problèmes. Et on le sait pendant des preuves archéologiques, on sait que la machine a bloqué à un moment donné, que la roue a arraché ses supports. D'accord ? Et qu'elle a été réparée et remise en service. Bon, enfin, on arrive à un certain nombre de choses. Donc on voit très bien qu'avec tout ça, on connaissait ce système qui devait fonctionner moyennement. C'est pas un franc succès, c'est pas une véritable catastrophe dès le départ. Il y en a qui ont fonctionné. Il y en a qui ont fonctionné. Et on voit qu'à Éphèse, les blocs que vous avez vus, ils sont parfaitement coupés. Hein. La machine a cassé ensuite, hein, juste il y avait les amorces des 4 plaques supplémentaires, mais les précédentes sont coupées jusqu'en bas. Et on a dans les bâtiments qui sont au-dessus les plaques de marbre. Là, c'était du marbre à Éphèse qui était coupé, qui sont réutilisées en plaquage mural. Et on a les grandes plaques qui font près de 1,50 m sur 1,60 m. D'accord ? Le personnel pour tout ça. Le personnel pour tout ça, en fait, une fois que la machine est lancée, il n'y a quasiment plus rien à faire, sinon qu'à remettre du sable sur les zones de coupe. Donc il faudrait qu'il y ait un gars par bloc, car l'alimentation en eau était automatique. On a retrouvé, il y a un système d'adduction d'eau qui permettait d'arroser directement les scies au niveau des pierres. Donc il ne s'occupait pas de l'apport de l'eau. Il était automatisé. Donc la seule chose, c'était de remettre du sable. Parce que c'est le sable qui coupe. Hein, donc la lame elle-même ne coupe pas. Elle entraîne le sable, c'est le sable qui coupe. Donc vous avez deux gars. Un pour surveiller... Pardon ? Ah, alors la mise en place des blocs, ça c'est autre chose. Ça c'est de la... Oui, mais ça, c'est de la manœuvre. Il faut les amener une fois, et puis après, bon, les gars s'en vont. Mais ça, c'est comme aujourd'hui, si vous voulez, quand on est sur le chantier, quand on a un gros bloc à déplacer, on appelle 10 ouvriers, quand il n'y a pas la grue, bien sûr, maintenant, mais on appelle 10 ouvriers, et puis c'est fini, puis quand ils repartent. Mais quand la machine fonctionne, et vous deviez en avoir un qui devait être préposé en haut à l'alimentation en eau, pour essayer de stopper la machine si jamais il y avait un problème.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, justement, je voulais vous poser une question concernant l'approvisionnement en eau, justement.
Oui.
Je suppose que c'est une machine qui nécessite une certaine force pour fonctionner. Donc, je voulais savoir si vous aviez étudié le débit d'eau nécessaire
Oui, tout à fait. Oui. Votre question est tout à fait pertinente. Ce n'est pas le débit d'eau là, qui est important. Oui. Au contraire, c'est un débit très faible. Hein, vous savez que les roues AOG alimentées par en dessus ne fonctionnent pas avec le débit d'eau, mais fonctionnent avec le poids de l'eau.
Oui, justement, mais ça devait représenter une certaine masse d'eau, même pas.
Non, justement, c'est le type de roue qui demande le moins d'eau. La chose qui est importante, c'est comme c'est le poids. Donc vous avez ce qu'on appelle des godets qu'on va remplir d'eau. Et ce qui est très important, c'est la taille de la roue.
Oui.
C'est-à-dire que plus la roue est grande, donc plus, c'est le problème du levier, hein, simplement. Vous avez une masse de 10 kg qui est à 4 mètres, donc vous allez développer un certain nombre de kilos, bien plus, enfin, un certain nombre de kilos en puissance après sur l'axe. Là, les calculs que l'on a pu faire actuellement, c'est que la machine développe à peu près 2 tonnes, ce qui est considérable. Et c'est rien du tout, en fait. Ensuite, ces 2 tonnes, il faut bien imaginer qu'elles servent uniquement à tirer. C'est le frottement, en fait, que vous allez encaisser. Le très gros problème, ça va être quel est le moyen de lubrifier la zone de coupe pour éviter que le frottement qui est nécessaire ne soit pas trop important pour bloquer les scies. C'est uniquement ça qui est le point faible. Donc, ce qui est très important, c'est la lubrification de la zone de coupe, d'où l'alimentation en eau permanente. Okay. Le reste après, à mon avis, la puissance, elle est même au-delà de ce qui était nécessaire. Et elle est tellement puissante que la machine casse, hein. C'est clair.
D'accord. Est-ce qu'ils avaient un moyen de maîtriser justement le débit d'eau pour pas que la roue tourne trop vite et que la machine ne s'emballe pas
Non. Le problème justement pour ce genre de roue, c'est qu'elle ne peut pas s'emballer. Elle ne peut pas s'emballer parce que vous avez quand même un volant d'inertie qui est assez important et qui est lié, juste, encore une fois, là aussi, à l'ensemble. Et c'est ce qu'on veut, justement, essayer d'étalonner. Hein. Je ne vous cache pas que c'est pour ça qu'on veut réinstituer un système de... On va être obligé de le faire en circuit fermé, parce que l'aqueduc est perdu depuis longtemps. On aurait 15 km d'aqueduc à reconstruire, ce qui est quand même là, hors de portée. Donc on va le remettre en circuit fermé. Mais, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est que la roue, actuellement, peut se tourner à la main. C'est-à-dire que vous êtes devant la roue, vous la prenez, vous la tournez, elle tourne toute seule. Donc vous imaginez, si vous mettez 2 tonnes d'eau, ça va aller sans aucun problème. Ceci dit, après, vous avez quand même toutes les scies. Le poids des scies, quand même, on a quand même 500 kg de scies en bout qui reposent sur les pierres. Alors vous avez des lames qui sont relativement faibles, hein, qui font 2 mm d'épaisseur. Si vous calculez la longueur, on arrive quand même à des pressions qui sont de l'ordre de 2 à 3 kg au centimètre carré. Ce qui est rien, ce qui est ridicule en fait. Okay ? Mais ça existe. Alors cette pression-là, elle est suffisante pour permettre justement l'enfoncement normal, automatique de la scie dans la pierre. Mais à un moment donné, vous allez aussi avoir, est-ce que la scie va rester bien droite, si elle commence à partir un petit peu de biais, si ça coince, s'il y a une lame qui part. On ne sait pas. On constate, si vous vous souvenez de la photo sur la face latérale, on voit qu'à un moment donné, quand ils ont arrêté les scies, quand ils les remettent en marche, elles ne repartent pas exactement à son emplacement de départ. Donc il y a des petits phénomènes que l'on ne connaît pas, mais que l'on veut essayer d'étalonner. Mais votre question est tout à fait exacte. Hein, c'est un des points qui reste à résoudre.
Merci.
Alors on pourrait le faire si on travaillait avec Dassault, parce qu'avec Dassault, on pourrait numériser tout ça, ils pourraient nous calculer ça avec un coefficient X, Y, Z. Et puis mettre ça dans leur machine et on aurait très rapidement les résultats. Mais on va essayer de le faire expérimentalement.
Oui, oui. Moi, quand je vois cette démonstration, je me dis, au fond, il y a plein de plaques, plein de plaquages qui ont été fabriqués. Et alors, est-ce qu'on les faisait avec ces instruments-là ou bien est-ce qu'on les faisait à la main ?
Il y en a beaucoup qui sont faits à la main.
Parce qu'il y a ces petites plaques de porphyre, par exemple, ça doit être terrible à découper à la main. Bon, il y en a partout. Il y en a dans nos campagnes, dans les temples avant d'œuvre, etc., des plaques, etc. C'est incroyable. Et ça devait donc fonctionner, ces choses-là. Je pense encore à autre chose. C'est une chose que moi, je me suis toujours posé la question. J'en parle aux étudiants. Les colonnes tournées, on les tournait comment ?
Alors ça, c'est...
C'est autre chose.
C'est encore
connu.
Autre chose.
C'est encore
autre chose. Je vais pas dire c'est plus simple, mais c'est
oui.
une technique qui est...
Mais il y avait une machine aussi.
Il y a une machine aussi, oui.
Mais c'était pas une machine hydraulique, j'imagine.
Non.
C'était fait à la main.
Non,
c'était tourné
à la main.
Mais enfin, mais le littéraire que je suis imagine alors, mal comment on peut
tourner... Non, mais on pourrait le faire.
Du bois, ça va, mais alors une colonne d'une certaine taille...
Non, mais on pourrait, là, pour tourner, hein, je dirais que tourner une colonne ne poserait pas de problème, puisque là, on reste dans un mouvement circulaire avec un autre mouvement circulaire. Donc, je dirais, ça, c'est simple. Sauf que si on a de la pierre dure, c'est pas simple du tout. Et moi, j'ai pas vu de colonne dure, de calcaire dur tourner. Ça, je n'en connais pas. C'est des calcaires tendres. Et vous savez que des calcaires tendres sortant de carrière sont parfois, vous pouvez les, avec l'ongle, quelquefois, vous arrivez à les travailler. Quoi. Donc, enfin, j'exagère à peine. Donc, c'est très différent. Donc, les éléments tournés sont toujours dans des calcaires tendres. Enfin, de ceux que je connais, hein, j'ai pas vu. Mais il faut reconnaître qu'on a des choses qui sont tout à fait étonnantes. Vous avez. On a des collègues qui sont en Égypte et qui se posaient la question de savoir, ben, tu parlais de Porphyre, comment les Égyptiens qui ne connaissaient pas le fer, enfin aux périodes archaïques, hein, étaient capables de percer des trous parfaitement circulaires dans du Porphyre. Ah ben, ça paraît comme ça quand on les voit, oui. Et quand on se dit, mais ils n'ont que du cuivre, eh ben, ils les ont percés avec du cuivre. Alors, il y a eu un dispositif expérimental qui a été monté par les équipes de Carnac avec un tour à main. Hein, c'est simplement donc un petit bâti en bois avec un poids au-dessus. Et ils ont, si vous voulez, un tube en cuivre qui est passé et dans lequel on met du sable et de l'eau. Ça, c'est le même système. Ça marche très mal. Ça marche très, très mal. Et puis, il y en a un qui a eu l'idée de mettre l'eau et le sable par l'intérieur et non pas par l'extérieur. Ça marchait un peu mieux, mais ce n'était pas terrible. Et puis, il y en a un pour quelle raison a eu l'idée de mettre des fentes dans le tube. C'est-à-dire de couper, vous prenez le tube, vous lui faites deux fentes en croix, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'en bas, c'est pas, il n'est pas complet, vous avez quatre segments de cercle qui viennent frotter. Et là, le rendement est multiplié par 100. Bon. Si vous allez dans un moulin de l'Indre, des moulins du siècle dernier, vous avez les fameux volants, hein, qui entraînent toutes les machineries. Là. C'est extraordinaire d'avoir un moulin du siècle dernier. Là. Du 19e, parce qu'on est au 21e. Donc vous avez ces énormes volants en fonte. Et sur ces énormes volants en fonte, les dents sont en bois. Alors, la première fois que j'ai vu ça, je me dis, mais que diable, on est capable, quand on coule le volant en fonte, on peut très bien couler les dents dedans. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait ? Ben, les gars vous le disent tout de suite. Ils vous disent, mais quand une dent casse, si c'est une dent en fonte, comment tu la répares ? Voilà, c'est tout bête. De la même manière, vous n'avez jamais un nombre, j'allais dire, correspondant entre les dents, justement, de ce volant et du plein tir qui vient par-dessus. De façon à ce que, lorsqu'il y en a une qui est cassée, ça ne soit jamais la même, ou alors après X tours, qui reviennent au-dessus de la cassure. Pour que ça évite le phénomène du chemin de fer, là, tac, 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 vous savez que c'est toujours le même qui reprend le coup et qui finit par casser, etc., etc., etc. Vous avez, ce sont ces astuces-là qui sont fondamentales, ce sont ces astuces-là qui font que le moulin va fonctionner, va avoir 10% de productivité de plus que les autres, et que les gars ne révélaient pas forcément. Et il y en a certains qui se sont perdus parce que le propriétaire du moulin qui avait trouvé la petite astuce qui lui permettait d'eux n'a pas voulu même transmettre l'astuce. Et ça, nous, ça nous échappe complètement. Lorsqu'on a remonté la machine, on a eu un problème qui était fondamental. On a essayé de la faire en sorte que ce soit exactement comme dans l'Antiquité. C'est-à-dire que les bois, ce sont des bois qui correspondent à des bois que l'on avait en Jordanie. Bon. Sauf qu'on n'a pas du pain d'Alep, on a du pain de l'Oregon, parce qu'ici on trouve du pain d'Oregon et pas du pain d'Alep. Mais on avait un problème, c'était toutes les parties métalliques. Et moi j'ai eu la bêtise de dire, ben, on va demander un forgeron. Ah ben oui, mais trouver un forgeron maintenant. Ben oui, non, mais je viens trouver un forgeron. Alors j'en ai trouvé un, oui, mais qui est un forgeron d'art. Que vous connaissez, c'est celui qui a fait la superbe biquette qui est au rond-point, là, qui avant de descendre sur l'autoroute à Sainte-Maure. Et quand je lui ai présenté les pièces à fabriquer, il m'a dit, oui, je peux le faire, mais tu as combien ?
Oui, exactement.
Donc voilà. Et puis, quand je lui pose des problèmes, il dit, mais la lame, par exemple. Quand il a vu, il m'a dit, mais une bande de métal, 4 mètres de long sur 10 cm de haut, grosso modo 10-12 cm de haut et 2 mm d'épaisseur. Il dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Ben, je dis, si, ça a été fait. Ils l'ont fait. Simplement, aujourd'hui, le coup de main est perdu. Le coup de main est perdu. Ah, il m'a dit, mais de toute façon, s'il y a une chose comme ça, il faut être au moins 3 ou 4. Parce qu'il faut, il faut des aides pour tenir la lame pendant qu'il forge un bout, etc. Bon. Le rivet, voilà, la tête, si vous voulez, etc. Tout est avec goupille. Tout ce qu'on a mis en place, on a des traces sur Girache même, au 3e siècle, pour tous les éléments que l'on a là. C'est-à-dire les rondelles, les goupilles, le chemisage des arbres. Les arbres en bois sont chemisés avec des crampons métalliques. Mais on les a trouvés sur le site. Hein. Mais dis-moi ça, c'est 20 kilos de métal. Alors aujourd'hui, 20 kilos de métal, c'est ridicule. Bon, on ne sait même plus où. Et pour l'Antiquité, 20 kilos de métal, de métal de bonne qualité, forgé, c'est un problème. Or, ça a été fait. On a des pièces beaucoup plus extraordinaires. Hein. C'est-à-dire que là, on a été obligé, nous, de passer avec des machines-outils pour les faire. Heureusement, on a retrouvé aussi un professeur à la retraite qui s'est passionné pour la chose, qui est venu travailler avec les collègues du bois et qui, le soir, a récupéré les tours et nous a fait toutes les pièces. Mais la fabrication de tout ça, aujourd'hui, a été faite sans problème. Dans l'Antiquité, c'est un investissement énorme. Et il y a un autre problème aussi qui s'est greffé. Trouver du fer blanc aujourd'hui. Enfin, ce qu'on appelle du fer blanc, c'est-à-dire qui n'est pas de l'acier. C'est quasi impossible, sauf si vous allez chercher dans les fabrications de bottes de conserve. Et je veux dire, trouver une masse de 20 kilos de fer blanc, voilà, qu'un forgeron va pouvoir travailler et manœuvrer, tremper comme il le souhaite. C'est impossible à trouver. Ça ne se fait plus. Donc là aussi, ce sont des limites. C'est-à-dire qu'on a été obligé, pour refaire les scies, d'aller chez une personne qui vend du métal en rouleau, vous savez, c'est des énormes rouleaux de 2 mètres, qu'il a découpé en petites bandes et qu'il a ressoudé. Inutile de vous dire qu'il a quand même posé la question de savoir pourquoi on lui faisait découper un rouleau de 2 mètres sur, je crois qu'il y a 50 ou 60 mètres de métal là-dedans, en bandes de 10 cm, pour les ressouder bout à bout, pour en faire des morceaux de 4 mètres, etc. Il est venu voir ce que c'était. Et quand on discute là aussi avec ces gars-là, ils ne comprennent pas. Ils ont du mal à imaginer, parce qu'on ne sait plus ce que c'est. Parce qu'on ne sait même plus ce que c'est que forger une barre de métal de 10 mètres. Enfin, de 10 mètres, pardon, de 4 mètres. Et ça, on n'a pas de réponse. Hein. On peut dire simplement, il l'avait fait. Il l'avait fait comment? C'est encore une autre question.
Je suis désolée, comme je vais t'arrêter. C'est vraiment dommage. C'est passionnant.
Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Merci d'avoir été aussi patient.
Bon, je vous vois le 4 mars. Merci à vous. Bonsoir.